RTL Original Podcast.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bulle Immo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver le PDG d'Atom Group, Sofiane Sadi. Bonjour.
Bonjour Gaël.
Le directeur de Nexvia, Pierre Clément. Bonjour.
Bonjour Gaël.
Et l'expert de l'Observatoire de l'Habitat, Julien Licheron. Bonjour.
Bonjour Gaël.
Merci d'avoir pris le temps de venir en studio. On se retrouve un peu moins d'une semaine après la publication du logement en chiffre numéro 16. Une publication que l'on va analyser puisqu'elle nous donne une idée de la trajectoire que prend le marché de l'immobilier. Julien, je vous laisse la parole pour que vous nous expliquiez les tendances à retenir au deuxième trimestre 2024.
Alors, je dirais que ce trimestre, on a des évolutions qui sont très intéressantes et qui méritent de s'attarder un petit peu, qui peuvent être groupées en fait en trois grandes observations. D'abord, on a clairement une augmentation du nombre de transactions, donc une reprise de l'activité sur le marché de l'existant. Ensuite, on a clairement une stabilisation des prix, avec visiblement un ralentissement de la baisse des prix qui se confirme, là aussi, surtout sur le marché de l'ancien. Et enfin, on a une certaine poussée sur les loyers qui doit être regardée avec attention. Et même si les évolutions sont relativement volatiles, c'est intéressant de s'attarder un petit peu là-dessus aussi. Alors, je peux peut-être reprendre en détail les trois grandes observations.
Allez-y.
D'abord, la première, donc concernant la reprise de l'activité. Cette reprise, elle était amorcée au premier trimestre 2024 et elle est confirmée dans les chiffres qui ont été publiés la semaine dernière, qui montrent que l'activité est en progression de plus 30%, en gros, sur l'ancien, que ce soit pour les appartements existants ou pour les maisons existantes. Donc une reprise assez nette. Pour donner un chiffre concret, qu'est-ce que ça représente ? Ce trimestre, on a par exemple 911 transactions pour les appartements existants. Un trimestre normal, avant la crise, on était environ à 1000 à 1100 transactions par trimestre. Donc on n'est plus très loin des standards d'avant crise. On est dans des proportions qui sont acceptables pour le nombre de transactions pour les appartements. C'est un peu moins vrai pour les maisons, parce qu'évidemment c'est plus cher et que là la reprise a été plus lente. Mais en tout cas, il semble qu'on a une reprise de l'activité. Pourquoi ? Eh ben, sans doute en grande partie parce qu'on a eu une baisse assez forte des prix. En cumulé, on est à moins 15% pour les appartements anciens et moins 20% pour les maisons anciennes par rapport au pic qui était probablement les mois de mai-septembre 2022. Donc on a quand même une baisse de prix assez forte, une relative détente sur les taux d'intérêt. On avait eu aussi des indexations de salaire. Tout ça fait que les ménages ont probablement aujourd'hui retrouvé quasiment le pouvoir d'achat qu'ils avaient au moment où la crise a été déclenchée. Ou en tout cas, on n'est plus très loin des standards qui sont ceux-là. Donc voilà pourquoi cette reprise de l'activité. Par contre, il faut noter que sur le marché de la nouvelle construction, on va un peu revenir sur les constats précédents, ce qu'on avait fait dans les précédentes bulles IMO. On a toujours un marché qui est très petit, très restreint, une activité qui est très inférieure à celle qu'elle était avant la crise. Pour donner là aussi un chiffre concret, ce trimestre, on a 154 transactions sur des appartements en construction, là où un trimestre normal, on est plutôt aux alentours de 6 à 700. Donc on est 4 fois au-dessous d'un trimestre normal pour ce qui est de la vente d'appartements en construction. Et là, pourquoi ? Ben, probablement pour plusieurs raisons sur lesquelles on reviendra sans doute plus tard. Évidemment parce qu'il y a les incertitudes sur le marché de la nouvelle construction, sur la capacité du promoteur à aller jusqu'au bout du projet, sur les délais de livraison et sur éventuellement le prix final. Tout ça, ça pèse et en comparaison avec les appartements existants, c'est évidemment une difficulté supplémentaire. Et puis on a aussi un ajustement par les prix qui a été moins fort que pour le marché de l'existant, avec une baisse de prix qui est difficile à quantifier parce qu'en fait, on a un marché tellement restreint qu'on a aussi beaucoup d'effets de composition. Ce n'est pas forcément les mêmes appartements qui sont vendus aujourd'hui que ceux qui étaient vendus en construction il y a quelques années, mais la baisse de prix peut-être, elle est comprise entre 5 et 10% en cumul par rapport au pic. Donc très très inférieure cette baisse à celle qu'on a sur le marché de l'existant.
Et puis les ventes réalisées ne sont pas forcément représentatrices du marché.
Exactement. Donc c'est très difficile ici de se positionner sur quel est le vrai prix. Mais en tout cas, il a clairement moins fortement diminué que ce que l'on a pu observer sur le marché de l'existant. Voilà pour ce qui est de l'activité. Donc j'ai un peu déjà dit quelques conclusions sur les prix, mais si on regarde spécifiquement ce trimestre-là, ce que l'on note très clairement sur les appartements et les maisons existantes, c'est une stabilisation. Avec aujourd'hui, sur le trimestre, une des évolutions qui ne sont pas vraiment significatives et une baisse de prix qui reste marquée sur 12 mois, moins 9,5% pour les appartements, moins 9,9% pour les maisons. Mais ces baisses, elles sont essentiellement, voire quasi exclusivement portées par le deuxième semestre 2023. En 2024, on n'a pas, ou quasiment pas, de baisse de prix sur les maisons et les appartements existants. Et alors, dernier segment, c'est le segment des appartements en construction. Et pour la raison qu'on indiquait, le fait qu'il y a peu de transactions, qu'il y a probablement des effets de composition, on voit des évolutions très volatiles d'un trimestre sur l'autre. Les évolutions qu'on peut interpréter changent. Donc, je ne surinterpréterai pas. Et je dirais là aussi qu'on est sur une tendance à la décélération. La baisse de prix semble pas vraiment très forte sur ce marché non plus. Et enfin, je termine avec les loyers, qui sont aussi une composante évidemment importante, surtout sur un marché où on a eu déjà pas mal de reports de l'accession vers la location. Donc la location, c'est un segment qui est devenu de fait très important, qu'il était déjà d'ailleurs. Donc là, on a aussi une poussée inflationniste qui s'observe sur les loyers. On est à plus 3,3% pour les loyers annoncés, donc basés sur les annonces immobilières. 3,3%, c'est un petit peu moins que la tendance des 10 dernières années, mais c'est en revanche plus que l'inflation, qui s'est stabilisé autour de 2,3%. Donc on a quand même des loyers annoncés des appartements qui augmentent dans des proportions non négligeables. Voilà ce que j'avais un peu à dire sur les évolutions récentes.
Très bien. Alors vous avez déjà évoqué la stabilisation des prix de vente. Elle est en train de se matérialiser aujourd'hui sur le marché, Pierre, Soufiane, c'est ce que vous voyez. Parce que faut le rappeler quand même, les données de l'Observatoire de l'Habitat, ça va jusqu'à fin avril 2024, hein, c'est bien ça.
Alors les données, c'est les transactions qui, elles, sont enregistrées jusqu'à la fin du mois de juin 2024. Okay. Mais c'est les compromis de vente qui sont essentiellement signés avant la fin avril, ouais, 2024. Donc on est 4-5 mois de retard par rapport à l'actualité du marché immobilier, des transactions qui sont accompagnées par les professionnels.
Voilà, donc la stabilisation des prix, elle s'est matérialisée depuis.
Donc moi, je peux vous dire ce qui se passe sur le terrain à l'heure d'aujourd'hui chez Nexvia. Et je pense qu'on a un volume assez représentatif pour donner une bonne indication. On a un retour à des bons fondamentaux, des fondamentaux sains sur le marché de l'existant, il me semble, avec un retour à l'équilibre entre l'offre et la demande, qui est beaucoup plus net. Et donc l'augmentation du volume va se confirmer, je peux vous le dire, sur le second semestre de l'année sur l'existant. Et je ne serais même pas étonné qu'on arrive à un volume annuel sur l'existant qui soit similaire à celui qu'on avait avant la crise, à une année même 2021. Ça démontre l'adéquation entre les prix et la possibilité de financement du public et notamment des propriétaires occupants est bien là, est bien de retour, et que les personnes qui aussi ont attendu pendant les 18 ou 24 derniers mois se repositionnent dans le marché et ont compris que les prix se sont fortement ajustés et qu'il y avait maintenant un timing peut-être opportun pour faire l'acquisition de leur résidence principale. Alors moi, je peux vous confirmer aussi qu'on est principalement sur des acheteurs qui sont des propriétaires occupants. On a toujours, on a quelques investisseurs qui se sont reportés d'ailleurs du neuf sur l'existant, mais néanmoins la majeure partie c'est des propriétaires occupants avec des taux qui se sont encore un petit peu réduits dans le dernier mois. Des annonces des banques centrales qui sont plutôt favorables à des baisses un peu plus importantes que ce qu'on avait prévu, puisque on a aussi une inflation, on l'a bien compris dans les derniers indices qui viennent d'être publiés en Allemagne, en France, qui est en deçà même des prévisions. La BCE, maintenant les prévisionnistes pensent que la BCE va encore faire une baisse de 25 points de base au mois d'octobre, alors que tout le monde pensait qu'il y en aurait la prochaine, ce serait pour le mois de décembre. Donc il y a probablement un cycle de décélération des taux qui va peut-être être encore plus fort que ce qui est attendu. Alors néanmoins, il est clair qu'on ne va jamais revenir des niveaux de 2021 ou 2022 où on pouvait emprunter à 1,30 en fixe, hein, ça c'est clair. Mais néanmoins, avoir des retours sur des taux variables à 2,50 et sur des fixes à 3% en déant les 18 mois, c'est pratiquement acquis aujourd'hui. Donc ça donne vraiment une opportunité à des gens qui veulent acheter leurs biens immobiliers, de se positionner et je pense même probablement de se refinancer encore dans 12 mois. Je ne sais pas si vous avez vu, mais par exemple, si vous faites l'acquisition en 2024 de votre résidence principale dans l'existant, l'intégralité de vos intérêts débiteurs sont
déductibles. Le cadeau fiscal.
Un cadeau fiscal supplémentaire, mais qui est vraiment une super opportunité pour un acheteur dans l'existant, puisque même si vous preniez du taux variable, il sera complètement déductible. Donc ça veut dire que votre coût réel, il est que de 55% pour la plupart des gens du taux qui vous est facturé par la banque. Et en déant les 18 prochains mois, il est probable que ce taux variable baisse de 1,5%, voire 2%. Donc ces taux déductibles, qui sont entièrement déductibles l'année de l'acquisition et l'année suivante, fait que là, il y a même un jeu pour ceux qui suivraient les prévisions des financiers à se financer à un taux moins élevé qu'aujourd'hui en profitant des prix actuels. Je pense que les prix ne vont pas redécoller de manière significative comme la période qu'on a eue de 19 à 22. Néanmoins, une augmentation raisonnable des prix dans l'existant qui s'est fortement corrigée va arriver. On voit que ça fait 3 trimestres maintenant que l'indice des prix hédoniques des prix existants est stable, déjà 3 trimestres. Cette stabilité, à mon avis, va continuer et les prix vont remonter raisonnablement avec au moins l'inflation pendant les prochaines années. La seule chose aussi que je veux dire, c'est que les fondamentaux sont de retour. Nous, on voit aussi que les écarts de prix dans l'existant sont aussi importants selon la typologie de biens. Et donc, qu'on voit que dans les échantillons, il y a beaucoup d'effets de typologie de biens. Et moi, je peux vous confirmer que donc un bien qui est en classe A, très récent, se vend aujourd'hui avec une prime plus importante qu'il y a 3 ans par rapport à un bien en classe I des années 70. Oui. Ce qui est bon. Aussi. Par contre, ce qui est aussi un message pour, je crois, les gens les promoteurs qui vendent du neuf, c'est que ce bien en classe A, qui est très récent, a aussi baissé de 20% ou quasiment pendant les deux dernières années, et qu'aujourd'hui, les investisseurs ont donc un choix disponible entre un bien qu'ils achètent chez un promoteur qui va avoir les mêmes caractéristiques d'un bien neuf, très efficient énergétique, avec un bien qui est déjà disponible sur le marché, qui est très récent et qui est disponible à l'emploi directement par son usager.
Voilà, alors vous avez anticipé plusieurs de mes questions, mais donc concrètement, vous me confirmez la stabilisation des prix sur le marché et éventuellement, donc, on peut s'attendre à une augmentation raisonnable des prix dans les mois à venir.
Je crois que j'ai pas la boule de cristal.
Ah mais sortez là si vous voulez.
Alors moi je.
On l'a oublié à la maison.
On l'a oublié. On a prédit chez Nexvia, on fait toujours, on est chez vous, on a fait des webinaires de manière régulière. Nous, on a toujours dit assez tôt, attention, il y a un risque sur les prix sont très élevés. Avant que les taux, d'ailleurs, n'explosent avec la crise qui est arrivée en 2022. C'est un discours qu'on a eu à peu près à partir de 18 mois avant ce moment-là. Et on avait vu d'ailleurs que les prix dans les programmes neufs avaient augmenté, continué d'augmenter de manière très forte, que les ventes, même avant crise, sur ces programmes neufs, étaient inférieures. Donc, il y avait déjà des indications que...
Des signaux.
Il y avait des signes qu'il y a un moment donné, il y avait... ça chauffait. Enfin, qu'il y avait un risque, en tout cas, potentiel, et qu'on pouvait quand même se poser la question que c'est bien de penser que les prix augmenteront jusqu'à l'infini, mais néanmoins, il faut quand même réfléchir aux clients et ses capacités réelles, qu'ils soient d'ailleurs propriétaires, occupants ou investisseurs. Donc, et aujourd'hui, en tout cas, bah, on voit que le propriétaire occupant au prix actuel sur l'existant a les capacités d'obtenir un financement auprès d'une banque sur une période de 25 à 30 ans.
D'ailleurs, aujourd'hui, on emprunte, vous devez voir pas mal d'offres passer, on emprunte à quel taux quand on parle d'un taux fixe de 30 à 30 ans?
Aujourd'hui, on emprunte sur les derniers taux qui sont proposés par les banques, sur un dossier bon, on emprunte à 3,40. Donc
Significativement en dessous de ce qu'on a vu il y a 6 mois, quoi.
Oui, oui, clairement. Mais en tout cas, si on regarde par rapport aux prix qui sont annoncés, clairement, on est aligné par rapport à ce que Julien a mentionné. Donc, on est quand même sur une reprise à la hausse des prix. Donc, ça, je peux aussi vous le confirmer. Donc, les tendances sont très, très alignées. Après, je pense qu'on va aller sur des augmentations de prix qui vont être peut-être au niveau de l'inflation, voire un peu plus, mais on ne va pas être sur des augmentations de prix comme on avait eu après 2020. Mais en tout cas, je peux clairement confirmer ce que Pierre et Julien viennent de dire, c'est-à-dire qu'il y a un marché qui est beaucoup plus dynamique que ce qu'il n'était. En résumé, un ralentissement de la baisse des prix, une stabilisation des prix au mètre carré sur le deuxième trimestre qui se confirme. Donc globalement, les ingrédients de la reprise étaient là. Cette reprise, si on parle des volumes, parce que des prix, bon, mais sur les volumes, elle se manifeste sur l'ancien. Le neuf est encore quand même en grande difficulté. Mais ce n'est pas non plus surprenant aujourd'hui. Je pense que c'est des choses dont on avait discuté. Et tous les éléments en place ont favorisé le scénario que l'on voit aujourd'hui.
Et justement, Soufiane, vous avez accès à des données en termes de prix annoncés, à des données un petit peu plus actuelles. Quels sont un petit peu les prix? Ils sont en train de repartir à la hausse sur l'existant. Vous avez dit plus 1,4%,
donc ça c'est sur le total. Ça repart assez vite quand même sur l'ancien.
Quand vous dites le total, ça comprend également le neuf.
L'ancien et le neuf, donc ouais. Ça c'est sur tous les biens qui sont publiés sur le site. Mm-hmm. Là, on va bientôt avoir les chiffres donc de T3, mais mm-hmm. Les tendances vont clairement être dans la même lignée. Mm-hmm. Après ça, ce sont les prix qui sont annoncés, hein, c'est pas les prix.
Oui, bien évidemment.
Mais juste pour avoir une idée, on est clairement sur une tendance de reprise au niveau des prix, qui est boostée aussi par des volumes. Donc l'ajustement des prix derrière a eu un impact avec un ajustement sur les volumes, mais du coup l'ajustement sur les volumes derrière fait que la demande qui revient, bah, c'est un impact sur les prix, d'autant plus que si vous avez un marché du neuf qui est très très peu dynamique en termes de liquidité et d'inventaire sur le marché, bah, ça fait qu'il y a un report encore plus important sur l'ancien, et qui explique aussi peut-être que les loyers sont un petit peu en hausse. Parce qu'il y a toujours une demande qui est là, de gens qui attendent ou de gens qui mettent en projet leur projet en pause ou autre.
D'ailleurs, vous basez, l'Observatoire de l'Habitat, vous basez sur les chiffres d'Immotop, hein, pour ce qui est des loyers.
Oui, exactement.
Est-ce que c'est quelque chose, les tendances que Julien nous a rapportées, c'est quelque chose qui se confirme aussi chez vous, chez Atome, en termes de location?
Pareil, en termes sur les locations, on est à plus 3,9.
C'est les prix, hein.
Ça, c'est les prix.
Et en termes d'annonces, est-ce que c'est aussi en baisse?
C'est-à-dire
le nombre d'annonces.
Le nombre d'annonces est resté assez stable. Par mm-hmm. contre, ce que l'on voit, c'est que la rotation des biens est beaucoup plus importante. Les biens restent en ligne beaucoup moins longtemps.
Ouais.
Donc, il y a des biens qui rentrent. Du coup, ça se compense. Mais on voit que les biens qui sortent, au lieu de rester 6 mois, parfois 5 mois, bah, ça dure un peu moins longtemps. Ça veut dire que la vélocité ou le dynamisme du marché est quand même revenu. Donc les biens tournent de manière beaucoup plus importante et plus dynamique.
Oui, parce qu'on est bien d'accord que la dynamique qu'on voit actuellement sur la hausse des loyers en général, c'est quand même assez inquiétant, parce que la location, c'était plutôt un marché qui était réservé aux gens avec des salaires un petit peu plus modestes en général. Il n'y a pas que ça sur le marché. Qu'est-ce que vous en pensez justement de cette hausse des loyers, Julien?
Ben là, c'est un petit peu l'histoire du lièvre et de la tortue, hein, finalement. Parce que si on regarde en longue période, 2010 jusqu'à aujourd'hui, ben les prix, ils avaient vraiment flambé très fortement, beaucoup plus que les loyers. Mais c'est vrai que les loyers ont augmenté de façon plus régulière et finalement, la hausse cumulée par rapport à 2010, c'est en train de rattraper ce qu'on a observé sur les prix. Donc là où les locataires auparavant étaient relativement bien lotis par rapport aux propriétaires en termes d'évolution de prix, aujourd'hui, c'est moins vrai, du fait de la correction qu'on a eue, notamment sur le marché pour la vente. Mais pour donner un chiffre concret, je crois que depuis 2010 on est quasiment à plus 5% en moyenne par année pour les prix, en tenant compte de la correction qu'on a pu observer là. Et pour les loyers, on est à plus ou moins 4% d'augmentation en moyenne pour les loyers annoncés, donc les loyers pour des nouveaux contrats. Donc vous voyez que le gap, le delta est quand même aujourd'hui plus si énorme qu'il aurait pu l'être avant la crise. Et ça, c'est une vraie inquiétude. Évidemment, les locataires sont en partie, pas uniquement, mais en partie des ménages qui ont évidemment des contraintes financières plus lourdes et qui sont beaucoup plus contraints et qui évidemment ne pourraient pas absorber des hausses de loyers beaucoup plus conséquentes que ce qu'on a observé. Donc là, il y a une vraie fragilité du marché qui s'ajoute aux autres fragilités qu'on a identifiées, notamment sur le neuf. Là, on a une vraie fragilité, je pense. Mmh. C'est très dangereux, cette reprise de l'activité qui se confirme sur l'existant et qui fait pas et qui se matérialise pas sur la nouvelle construction. C'est vrai que ça laisse planer un doute sur l'offre future et donc sur la capacité de l'offre à remplir ou à revenir au niveau que peut représenter la demande. Mmh. Donc ça, sur du moyen long terme, c'est une inquiétude qu'on doit avoir. Et c'est vrai que la relance de l'activité sur le marché de la nouvelle construction, ça s'impose aussi parce qu'on a besoin de cette offre supplémentaire.
Oui, oui, surtout sur le marché de la location, c'est un petit peu...
Oui, aussi sur le marché de la location. Ouais.
Bah, la situation actuelle est de nature à encore augmenter les effets de la crise potentielle du logement qu'on a ici depuis de nombreuses années, malheureusement. Mmh. Le nombre de logements disponibles à la location risque d'être encore en baisse. On voit sur le stock, il n'a pratiquement pas augmenté. Vous prenez Luxembourgville, par exemple, c'est le même stock qu'on avait avant, avec des prix qui ont augmenté. Vous avez sur les années 2024-2026, probablement extrêmement peu de nouveaux logements qui vont être mis en location. Et donc, évidemment, ça va mettre davantage de nouveaux ménages qui arrivent au Luxembourg dans une situation plus critique, puisqu'ils vont devoir déployer beaucoup plus d'argent, probablement, pour se loger. Donc, aujourd'hui, il faut quand même comprendre que, je crois, tant que la situation ne bouge pas au niveau du prix du neuf, en tout cas pour beaucoup de projets, il y en a certains où ça peut être discutable, qui peuvent être bien pricés, mais pour beaucoup, l'écart de prix, en tout cas, entre le neuf et l'existant est aujourd'hui trop grand pour une reprise rapide des ventes en VFA. Mmh. Donc, cela... Et aujourd'hui, vous avez un stock, par contre, de biens existants disponibles à la vente qui est encore relativement grand, puisqu'il a augmenté depuis 2022. Hein. Donc, il y a une reprise, certes, il y a des volumes qui ont augmenté, on est pratiquement en retour, mais par contre, le stock de biens à vendre est plus grand. L'avantage que vous avez aujourd'hui en tant que personne qui a besoin d'un logement, c'est que vous pouvez acheter à un prix réduit, et surtout que vous avez accès à un stock plus large. Donc aujourd'hui, vous pouvez vraiment essayer d'aller acheter un logement assez très récent, bien localisé, avec tous les accessoires dont vous avez envie, la bonne terrasse, le parking, etc. Et c'est peut-être le moment d'en profiter, parce qu'en réalité, dans quelques années, on va sûrement être de retour à la situation similaire à ce qu'il y avait il y a 3 ans. Ça veut dire que tous les biens vont se vendre très rapidement, parce qu'il y aura tellement peu de biens disponibles existants sur le marché, que ça va accroître la pression, et certains feront se feront mal, on va dire, hein, même financièrement, pour devenir propriétaires de leur bien immobilier. La propriété immobilière, on l'a toujours dit, ça restera un des objectifs de vie de chaque personne. Et donc, les gens qui disent que c'est une maladie, que les gens veulent être propriétaires, moi, je trouve que c'est un argument qui ne tient pas. Moi aussi, personnellement, je suis content d'être propriétaire de mon bien immobilier, parce que, comme tout le monde, je pense à mes vieux jours, et je serais content de ne pas payer de loyer et de ne pas être dépendant d'un tiers.
Et globalement, ce n'est pas le fait d'avoir une proportion importante d'accès dans la propriété qui fait monter les prix au Luxembourg. Parce que la demande, elle est tirée aussi par la location, via les investisseurs qui, évidemment, sont là aussi pour loger des locataires. Donc, c'est les pressions démographiques qui ont fait augmenter les prix, et surtout la difficulté pour l'offre à s'ajuster par rapport à cette demande considérable. Ce qui est choquant quand même, et on va revenir sur un constat qu'on a fait depuis depuis le début de la bulle IMO, ça fait déjà quelques temps.
Ça fait des années.
C'est vraiment la difficulté d'augmenter l'offre, même sur la période 2017-2022, où on a eu des flambées sur les prix, parfois des augmentations à 2 chiffres des prix une année.
C'était dans l'intérêt des constructeurs d'aller plus vite, quoi, à l'époque.
Oui, c'est ça. On aurait pu imaginer que le volume soit nettement supérieur à ce qu'il était auparavant.
Alors, c'est clairement une... C'est un peu un... au niveau de en tout cas ma vision des choses, c'est que sur l'immobilier, on a besoin d'une vision sur le long terme. C'est-à-dire qu'il faut, il y a aujourd'hui certaines choses qui doivent se faire. C'est des plans sur 15, 20, 30 ans. Je pense qu'on sera, les projections étaient 1 million d'habitants, un million de résidents en 2000.
C'est revu à la baisse entre temps.
Oui. Revu à la baisse, mais il va falloir loger toutes ces personnes. Et donc on a une vision qui doit se faire à long terme pour l'immobilier, mais aussi pour d'autres choses, pour continuer à être compétitif. Mmh. Et derrière, on a des choses qui se font, des décisions qui se prennent et qui sont sur le court terme. Donc il n'y a pas un alignement. Et aujourd'hui, si on veut construire aujourd'hui, cette décision, elle doit être prise aujourd'hui pour avoir une vision claire. Est-ce que Luxembourg va devenir un État bâtisseur avec tout ce qui va avec ? Ça veut dire qu'on continue de construire autour de Luxembourg-Ville, on continue de construire en dehors, mais ça veut dire aussi qu'il faut des infrastructures, etc., etc. Ou c'est le statu quo et on est de retour dans quelques années à la même discussion qu'on a eue il y a 4 ans, première bulle IMO, les prix sont trop élevés et on va revenir au même problème.
Ouais, c'est un cycle.
Challenge qui est très, très, très risqué pour moi, c'est que là, il y a un gros problème en termes de compétitivité. On ne peut plus se permettre, surtout dans le contexte mondial dans lequel on vit. C'est très, très, très compliqué. Aujourd'hui, il faut être compétitif. Il faut vraiment repartir. Il faut que l'économie puisse repartir. C'est difficile. On voit que l'Allemagne est en difficulté. On voit que c'est difficile pour la France, les pays qui sont les pays voisins très importants pour le Luxembourg. Plus en plus de mesures protectionnistes. C'est difficile de faire venir une main-d'œuvre qualifiée. Ça va être très compliqué pour la suite. C'était gérable jusqu'à aujourd'hui, mais ça va devenir très, très difficile de continuer comme ça.
Oui, puis on le sait, même dans la construction, ça, la main-d'œuvre, c'est très très compliqué à en trouver actuellement. D'autant plus si on a des problèmes de logement, les locations au prix où ils sont, on ne peut pas faire venir des ouvriers du Portugal. Hein, ils font demi-tour, hein, 2000 euros l'appartement par mois, c'est pas possible avec un salaire à 1900.
Et ça devient difficile pour les frontaliers, et ça devient difficile, c'est quand même compliqué. Mm-hmm. C'est quand même compliqué.
Non, et ça crée la pression aussi transfrontalière, les gens sont obligés d'aller encore plus loin, c'est pas qu'une question de passer la frontière, c'est d'aller encore plus loin derrière pour pouvoir donc faire attention à cette tranche de des employés dont on a besoin aussi pour le Luxembourg pour se développer. Il y a aussi besoin de jobs qui sont moins rémunérés. Il n'y a pas que des gestionnaires de fonds alternatifs.
Il faut pouvoir loger ces gens-là aussi.
Voilà, et donc il faut aussi que ces gens-là puissent vivre décemment pour que l'économie tourne. Mais je crois que le logement n'a jamais été traité comme une infrastructure nécessaire au développement du pays.
Alors que le modèle de croissance luxembourgeois repose sur la capacité à loger les gens et à assurer la bonne mobilité. Et aujourd'hui, on voit que les deux grosses difficultés du pays, c'est vraiment la mobilité d'une part et le logement de l'autre, qui sont finalement les deux rançons du succès luxembourgeois. Mmh. Malheureusement, c'est vrai que le risque, c'est qu'on revienne sur les discussions qu'on avait il y a 2-3 ans dans la Bulibo, où on reparle de la nécessité...
Mais ça c'est en partant du principe que Luxembourg continuera à être attractif, et c'est pas forcément évident. Les dernières conférences auxquelles j'ai pu assister, même Fondation IDEA, etc., Statec, ils sont pas forcément très optimistes en termes d'attractivité du Luxembourg, au contraire. Donc oui, c'est en partant du principe que Luxembourg restera attractif.
Et donc on pourra, soit on aura peut-être un pays encore très riche, mais à une taille très peut-être similaire à ce qu'elle a aujourd'hui, ou un peu plus, mais le développement pourra pas se faire sans pouvoir loger des gens. Donc il y a un choix à faire. Il y a aussi des contraintes même pour le pays, hein, donc il faut quand même en être conscient. Il y a des pensions très élevées à payer dans le futur, un modèle qui marche très bien aujourd'hui, mais parce qu'il y a eu cette dynamique démographique très forte qu'il faut continuer. Et donc là, on est à un endroit, qui est compliqué. Pour moi, le logement, c'est une infrastructure nécessaire. Et quand c'est une infrastructure nécessaire, il devrait y avoir une implication plus importante de l'État, des régulateurs,
Maintenant, l'État s'est engagé dans cette crise à court et à moyen et à long terme, quand même. Oui, je trouve que ces dernières années, c'est vrai que le problème du logement a été pris davantage à bras-le-corps qu'il avait été pris il y a 10 ans, où c'était surtout des effets d'annonce, mais malheureusement, on n'a pas eu de choses très concrètes. Là, j'ai l'impression que l'État, le gouvernement, a clairement compris que...
Vous l'avez un peu dit, hein, on part un peu avec 10 ans de retard, cette stratégie de logement abordable.
Oui. On part probablement
plus que 10 ans.
Mais probablement plus, hein. Moi, je suis
assez
d'accord.
Parce qu'on a un tout petit stock de logements locatifs sociaux, là où d'autres pays ont fait le choix il y a très longtemps de basculer sur ce modèle. Et c'est vrai qu'on part de très très loin. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire que tout est perdu. Il y a vraiment des solutions. Je crois que l'État a montré aussi, pendant la crise, qu'il pouvait agir. Là, on a vu, même si, évidemment, quantitativement, ça reste limité, les projets de rachat par l'État, le fait que l'État a racheté des projets de VEFA, c'est relativement conséquent. Hein. Dans le logement en chiffres qui a été publié la semaine dernière, on montrait qu'il y avait 129 appartements qui avaient été achetés par l'État en construction au cours des deux premiers trimestres 2024 sur 4 grands projets. Et donc auprès de promoteurs privés. Alors c'est vrai que le chiffre paraît pas impressionnant, 129 le appartement, mais ça représente plus du quart des appartements en construction qui ont été vendus sur cette période. Donc après, c'est quand même un effort relativement important.
Oui, puis il y a eu les mesures concernant le chômage partiel pour s'assurer aussi que la main d'œuvre ne s'échappe pas, parce que c'était le cas en début de crise.
Les efforts sont faits. Je pense que le but ici, c'est d'anticiper les choses, d'avoir une vision aussi sur ce qui va se passer demain. On vit ici au Luxembourg, nos enfants, pour ma part, sont nés ici. Donc, il y a quand même une génération qui est venue, c'est une main-d'œuvre étrangère qui est venue ici, qui s'est installée. Les enfants sont nés ici, qui grandissent ici. Donc, il y a aussi cet effet de cette population qui est en train de grandir. Est-ce que tout le monde doit devenir propriétaire? Je ne sais pas, mais je pense que tout le monde doit pouvoir avoir
le choix.
Donc, c'est un besoin primaire. Comment ça, il faut trouver des solutions. Est-ce que c'est via des subventions, du logement abordable? Peu importe, on peut regarder ce qui se fait ailleurs. Par exemple, en Belgique, j'avais lu ça, il y a une mesure qui est... Ça a été un gros changement. Pour booster l'accès à la propriété, les droits d'enregistrement dans la région wallonne ont été baissés de 12,5% à 3 ou 3,5%. Mmh. C'est énorme.
Mais enfin, c'est presque... Arrêtons. C'est énorme. Oui, mais c'est fait ici. On a un crédit d'impôt de 40 000 euros par personne jusqu'à la fin.
Je compare pas la mesure pour dire ça a été fait là et ça n'a pas été fait ici. Juste pour dire, certains pays prennent
des mesures importantes
pour booster la demande et l'accès à la propriété. La Belgique fait ça. L'Allemagne prend des mesures différentes où le taux de propriété est de 50%. La France prend des mesures différentes. Pour la Belgique, pour la première fois, on touche à quelque chose qui n'a jamais été touché. C'est les droits d'enregistrement. Ça peut être autre chose au Luxembourg. Donc le point, en fait, c'est pas de dire on doit faire ça. Je sais que ça n'existe pas ici, hein, Pierre. Donc je le sais. Mais ce que je dis, c'est que des pays peuvent prendre des mesures pour booster l'accès à la propriété. La région wallonne en Belgique fait ça. Elle pourrait faire autre chose. Par contre, ils ont arrêté, par exemple, les subventions via cette... Il y avait une banque qui subventionnait, par exemple, les gens qui n'avaient pas les moyens. Ça va être arrêté pour faire autre chose. Donc, des mesures peuvent être mises en place. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour aujourd'hui faire en sorte que les choses puissent avancer, quoi.
Enfin, moi, je regarde vraiment de manière micro par rapport à notre activité, les mesures qu'il y a en place, parce que moi, je suis dans le dur, je fais des ventes par rapport à Atom qui met des annonces en ligne, je rappelle juste. Et il n'y avait pas de... Mais il y a aujourd'hui beaucoup de mesures qui ont été mises en place par le gouvernement. Les mesures pour aider les gens à être propriétaires, elles sont quand même énormes. Vous avez aujourd'hui un crédit d'impôt par personne de 40 000 euros, doublé donc quand vous êtes marié. Ça veut dire que vous achetez jusqu'à 1 million d'euros, vous ne payez aucun frais d'enregistrement. L'intégralité de vos intérêts sont déductibles en 2024 et en 2025. Enfin, en fait, le gouvernement, au niveau macro, il a pris fiscalement toutes les mesures nécessaires pour aider la propriété qui aujourd'hui est une propriété privée. Alors, et je rejoins, il aurait fallu faire en tout cas une politique de développement, à mon avis, de logement public il y a bien longtemps, parce qu'on savait que le problème allait arriver, c'était clair et net. Par contre, aujourd'hui, il y a des choses qui sont mises en place et ils agissent de manière très forte. Je prends les chiffres qui ont été dans le logement numéro 16. Sur les 250 transactions du premier semestre, il y en a...
Oui, mais transactions. Attention, Pierre.
Transactions,
pas appartements vendus.
Ok.
Ah, c'est là qu'il faut nuancer. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai fait le petit calcul du quart. Oui,
ok. D'accord.
Parce qu'en réalité, on a un peu plus de 400 appartements vendus sur ces 250 transactions.
D'accord, ok. Mmh. Bon, mais néanmoins, l'État a acheté beaucoup, enfin, a acheté quand même beaucoup de logements pour soutenir la construction. Et probablement soutenir des acteurs qui en ont aussi, aussi besoin pour garder de la capacité productrice. Et ça, je pense qu'on peut en féliciter. En tout cas, ils jouent leur part du jeu.
Voilà, le dernier point, c'est vous avez déjà parlé donc, des aides gouvernementales en place. Donc il y a ce Bulgen Act supplémentaire, en fait, parce qu'à la base, on avait 20 000 euros, ça passe à 40 000. Si vous avez utilisé les 20 000 précédents, vous avez donc 20 000 en plus. Si vous ne les avez pas utilisés, vous en avez 40 000. Le souci de ces aides gouvernementales, c'est qu'elles elles ont une date de péremption et c'est fin d'année. Et donc.
Ce qui se justifie parce que toutes ces aides à la demande, elles sont là pour aussi faire passer cette crise immobilière qui est passagère.
Et c'est là où je vous pose la question.
Et le coût supplémentaire de l'intérêt.
C'est là où je vous pose la question. La deadline donc, de ces aides gouvernementales, elle approche.
Oui.
Les prix se sont tout de même bien ajustés sur l'existant. On est bien d'accord que sur le neuf, ce n'est pas la même situation. Dans ce contexte, sortez vos boules de cristal et dites-moi à quoi on peut s'attendre en cette fin d'année.
Moi, j'achèterais, si j'étais dans un projet, j'essaierais d'acheter de l'existant à un prix correct. Il y en a beaucoup sur le marché. Et j'essaierais de profiter des 10 000 supplémentaires que j'ai, 20 000 avec mon épouse ou avec ma partenaire. Voilà. Et sinon, l'an prochain, c'est pas très grave, j'aurais quand même pas complètement loupé le coche parce qu'il faut être honnête, il y aura toujours 30 000. Donc on perdra 10 000 ou 20 000 si on est en couple, ce qui est sur l'achat d'un bien immobilier au prix du Luxembourg pas une différence énorme. Donc il y a encore une continuité des aides.
Mmh. Oui, je crois qu'il y a une continuité des aides. C'est vrai qu'il y a un subventionnement très fort depuis longtemps à la demande. Ça a aussi probablement été une des raisons qui ont poussé à l'augmentation des prix, c'est qu'on a beaucoup subventionné la demande et que peut-être on n'a pas assez agi sur l'offre. Et c'est en partie ce qui a creusé cet écart entre offre et demande de logement. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Je crois aussi que les promoteurs ont eu peut-être gain de cause, ou en tout cas ont vu certaines de leurs revendications de longue date qui ont été plus ou moins accréditées par le gouvernement, notamment pour ce qui concerne la simplification administrative. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose, j'espère, qu'on va voir se matérialiser dans les prochaines années, parce que pour moi, si on doit avoir demain à nouveau une flambée des prix, alors on aura un sérieux problème de rationnement, et plus simplement d'augmentation des prix et de difficultés financières, mais de rationnement, parce qu'on n'aura plus beaucoup de ménages qui pourront accéder à la propriété, mais même plus beaucoup de ménages qui pourront se loger avec des niveaux de prix qui, s'ils venaient à augmenter de 20-30% encore. Ouais. C'est ce que cette crise a montré, il faut quand même retenir quelque chose, parce que j'ai peur qu'on sinon on reparte la tête dans le guidon comme on l'a fait les années précédentes, sans tirer les leçons de cette crise. Il y a au moins une leçon qu'on doit tirer, c'est qu'on a vu, c'était une expérience naturelle, que l'augmentation très rapide des taux, elle avait dégradé le pouvoir d'achat des ménages de 30%, et qu'à ce niveau-là de pouvoir d'achat, la demande est très faible. Mmh. Donc si demain, de la même manière, les prix devaient monter de 30% en cumulé sur 2, 3, 4 ans, alors on risque d'avoir le même problème, une demande très faible et un rationnement du nombre de propriétaires potentiels. Donc ça, c'est vraiment, ça mettrait vraiment en doute le modèle de croissance luxembourgeois. Ça rendrait l'accès à la propriété quasi impossible pour un nombre très important de ménages. Et donc c'est à la fois la cohésion sociale, la compétitivité, l'attractivité du territoire qui serait en danger.
Et puis voilà, ça à coup de crise, l'attractivité du Luxembourg sera vraiment remise en question.
C'est le problème principal. Par rapport à comment les choses vont évoluer, certes, comme dirait Pierre, je ne suis pas sur le terrain, mais je pense que...
On s'aime bien quand même, Soufiane.
Ça s'applique encore plus à moi. Sois rassuré, Soufiane.
Non, on a, comme je disais tout à l'heure, je pense que, en tout cas au niveau de l'évolution des prix, on est reparti sur une tendance haussière sur le très court terme et prochain trimestre. La reprise de l'ancien.
Pour être clair sur l'existant, la tendance haussière.
Sur l'existant. Sur le neuf, les choses restent encore compliquées, que ce soit au niveau des... Même les nouveaux projets, on n'a pas forcément beaucoup de nouveaux projets qui se mettent sur le site. Ça reste très très compliqué. Donc là, je rejoins aussi Julien qui parlait de plus regarder en fait structurellement les autorisations de bâtir, ce qu'on va vers vraiment quelque chose qui est dynamique à ce niveau-là. Mais je dirais que la tendance, je pense, sur les prochains trimestres, va être en continuité. Et un ralentissement de la baisse des prix, une reprise, une stabilisation. Maintenant, à voir cette reprise, quelle va être l'amplitude. Mmh. Et c'est curieux de voir quand même comment les choses vont se goupiller. On ne sait jamais ce qui peut se passer aujourd'hui. Mais globalement, on est dans une tendance qui risque de se confirmer.
Voilà. Bah écoutez, avant de raccrocher, je précise quand même que donc, cette simplification administrative, elle est en marche, mais elle va se faire en plusieurs volets, en plusieurs années. Donc, c'est-à-dire que on peut les effets de cette réforme, on les verra vraiment dans 3 à 4 ans. Donc, ça, c'est encore une autre problématique. Mais sinon, je voulais quand même tous les trois vous remercier d'avoir pris le temps de passer en studio. À nos auditeurs, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de La Bulle Immo. Merci.
Merci Gaël.